the can. Spins a web, any size. Catches thieves, just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, bud. He's got radioactive blood. Il y a des titres qui s'imposent quand on parle de certaines choses. Et quand on vous parle d'un livre écrit par John Buscema dans les années 70, on ne peut pas ne pas passer cette musique. Voilà, donc vous l'avez tous regardé quand vous étiez jeune, ce dessin animé ?
Oui.
Ouais, vas-y, dis oui comme ça, sois convaincant.
Surtout quand j'étais jeune.
Ouais, mais ça y avait des diffusions quand t'étais jeune. Hein. Donc, voilà, donc on va vous parler aujourd'hui de How to Draw Comics in the Marvel Way. Alors, ou comment dessiner des comics à la façon Marvel. Alors, c'est un livre qui a été multi-réédité dans les pays anglo-saxons et qui arrive enfin en France 31 ans après. Donc, c'est écrit par Stanley et John Buscema. Pardon ?
Il est arrivé à la nage, peut-être.
Ouais, non, mais en même temps, moi, tu vois, l'édition que j'ai, elle, c'est déjà une réédition de 84 qui avait été faite par un éditeur anglais qui était First Fireside, qui est un spécialiste de la réédition. Et donc, voilà. Donc, déjà, ils ont fait une réédition de ce bouquin à l'époque, en 84. Pour revenir d'Angleterre, en 84, on a fait le chemin plus d'une fois, hein, quand même. Hein. Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans le livre, c'est vrai que bon, c'est une méthode de dessin assez classique, par bien des aspects. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir des vrais sketchs faits par John Buscema. Parce qu'effectivement, on voit sa manière de travailler, et on se rend compte que c'est vraiment... Alors, là où Kirby était quelqu'un qui avait une image totalement précise en tête, qui fait qu'il ne préparait rien, et qu'il était capable de dessiner un personnage en commençant par les pieds et arriver à le finir, Buscema travaille ses mises en page, a une construction en fil de fer, des trucs classiques dont on a toujours l'impression que les pros se passent très rapidement. Et puis on a une construction qui est quand même très didactique, très bien vue. Donc évidemment on n'échappe pas au premier chapitre sur le matériel, mais déjà ensuite... aussitôt on passe sur sur des chapitres plus cadrés sur le dessin avec la manière de dessiner des dessins réels. D'ailleurs, du coup là on a des images de Kirby qui sont mises et où on nous explique effectivement 2-3 astuces de dessin et surtout sur la manière de jouer sur les ombres et effectivement de dire aussi que ben, si on met pas d'ombre sur un dessin, ça ne colle pas. Et c'est vrai que c'est un peu quelque chose que beaucoup ont tendance à oublier. Même des dessinateurs qui dessinent en noir et blanc. Là, je crois que c'est encore plus gênant. C'est vrai que...
Oui, effectivement.
Voilà. Mais même des gens très connus et très efficaces, quand on prend quelqu'un comme Terry Moore qui dessine Stranger in Paradise, utilise très peu d'ombre. Et pourtant, il est dans un noir et blanc. Il n'y a aucun niveau de gris qui est utilisé dans son dessin. Quand on prend la dernière série en date qui vient de sortir, qui est Echo, c'est très très clair. Et c'est vrai que parfois, ça pourrait gagner à avoir des niveaux de gris, ce que par exemple a très bien compris Image sur Walking Dead, où effectivement, ces niveaux de gris sont très présents. Ensuite, évidemment, on a le fameux cours de perspective qui parfois en rebute plus d'un, mais paraît est vraiment intéressant. Moi, ce qui m'a aussi beaucoup amusé dans cette manière de dessiner par Buscema, c'est qu'avant d'apprendre à dessiner un corps, il fait un chapitre sur l'anatomie. Ce qui, à l'époque, pour un dessinateur de comics, semble un peu bizarre. Quand c'est Bernegard qui le fait, ça paraît plus logique. C'est vrai que c'est pas forcément ce qu'on attendait de John Buscema. Et c'est vrai que sur les règles de construction, sur les corps des personnages, donc à décomposer en huitième, etc., il y a vraiment quelque chose de très important qu'on n'a pas forcément naturellement appris en cours. Et c'est vrai que quand vous avez lu ça, vous ne regardez jamais un dessin de Liefeld de la même façon. Parce que vous êtes en train de mesurer avec vos doigts l'espace entre chaque partie et de vous dire « Oui, putain, il y a un gros problème, les cuisses, elles sont beaucoup trop courtes et beaucoup trop longues et les moulées beaucoup trop courts. »
Oui, voilà, Il n'y a qu'une seule façon de voir les dessins animés, c'est d'insectes avec critique.
Voilà. Ouais, mais ça peut être toujours très drôle, surtout quand ça change d'une case à l'autre. Et voilà. Et c'est vrai que Rob Liefeld ferait bien de rebouquiner ce bouquin un coup de temps en temps. Et donc, il y a vraiment des choses intéressantes, et aussi sur la personnalisation des personnages, sur la manière de les dessiner. Avec, et on en revient à des personnages faits en fil de fer et en forme. C'est vrai que, par exemple, il met les différences de carrure en perspective, et il montre par exemple un dessin du Kingpin et un dessin de The Thing. Et on peut avoir l'impression que ce sont deux personnages qu'on fait juste gros. Et quand on reprend les esquisses qu'il montre, on se rend compte qu'effectivement, dans l'esquisse, les personnages sont diamétralement opposés. Parce qu'effectivement, il y en a un qui est construit en muscles et voilà. Il y en a un qui est construit comme toi, c'est-à-dire qu'il a plus dans le ventre que dans les abdos, et un qui est comme moi, qui en a plus dans les abdos que dans le ventre. Petit con. Enfin voilà. Toute méchanceté mise à part, c'est pas grave, à la radio, ça ne se voit pas.
Ouais, ça voilà. Vérifier, effectivement.
Voilà. Et puis il y a aussi beaucoup de choses qui ont été faites sur la manière de positionner les personnages. Et on en arrive vraiment à l'explication sur l'hyperbole dans le mouvement, effectivement, sur la manière de dessiner pour avoir du mouvement. Quand il le fait sur un personnage, c'est déjà intéressant. Là où ça prend vraiment tout son sens, c'est plus tard. Donc déjà, il va décortiquer d'abord des cases, mais ensuite il va faire des planches, et qui pour moi sont des planches qui vraiment expliquent tout. C'est-à-dire qu'il a fait, il a repris des planches à lui de ses comics, et il a redessiné les mêmes en ne respectant aucune des règles qu'il avait données précédemment. C'est-à-dire que il a refait des planches où il reprend les mêmes éléments. Alors, il fait des cadrages droits. Il atténue les positions pour avoir quelque chose de plus naturel. Et au final, on se retrouve avec quelque chose d'affreusement fade. Et c'était toute la logique qu'il avait en créant ces planches. On n'a plus donc de mouvement. Les actions sont montrées de face. C'est-à-dire que la force des coups de poing paraît nettement moins importante. Et il y a plein de choses comme ça qui, eh bien justement, sont très intéressantes. Dans ces deux, il l'a fait sur deux planches. Il y en a une qu'il a pris dans un épisode des Vengeurs, et l'autre, j'ai un trou, je la retrouve plus en plus évidemment dans le bouquin. Bon, on a évidemment toute une méthode sur les visages. On a aussi quelque chose, donc on en reparlait par rapport aux zones d'ombre. Les zones d'ombre, c'est important sur la construction d'un personnage, mais il montre aussi toute l'importance sur une page. Et sur la répartition des masses. Donc il y a vraiment des choses qu'on n'a pas vraiment l'occasion de voir ailleurs. Moi, honnêtement, en méthode de dessin, c'est celle que j'ai trouvée la plus intéressante, avec évidemment l'indétrônable comment dessiner les comics. De comment il s'appelle, son nom est en train de passer dans un trou, je ne le vois plus, c'est comme les tunnels, et Alain, ne m'aide surtout pas quand j'ai besoin de toi. Scott, qui a fait 3 tomes chez Delcourt, Scott McCloud, voilà. Donc Scott McCloud, qui est quand même effectivement la référence ultime, mais on retrouve beaucoup des choses qu'on va voir plus détaillées dans Scott McCloud, puisque là c'est un livre qui fait 160 pages, hein, c'est quand même moins épais que les 3 tomes de Scott McCloud. Puis là on est vraiment sur une notion du dessin. Faut aussi dire qu'à l'époque où c'est sorti, donc en 78, Marvel n'avait pas du tout, par exemple, la même manière de fonctionner que DC. C'est-à-dire que chez DC, on faisait des scénarios complets, alors que chez Marvel, on faisait un script, le dessinateur dessinait le script, et ensuite le scénariste revenait faire les dialogues. Et c'est ce qui a fait aussi le succès de Marvel à l'époque, c'est que les dessinateurs étaient beaucoup plus libres de ce qu'ils faisaient. En plus, Stan Lee écrivait tellement de trucs qu'au bout d'un moment... il était plus éditeur que scénariste.
Oui, normalement, les scénarios se résumaient à une page volante.
Alors, le.
Qui est ça dans l'épisode, quoi.
Voilà. Le mieux qu'il l'ait fait, c'est pour 48, 49, 50 de Fantastic Four, il y a eu une phrase. Le script qui a amené à la création de Galactus et du Silver Surfer, c'était des fantastiques rencontres Dieu. Et à partir de ça, effectivement, notre dessinateur a brodé trois épisodes. Bon, il y a eu des allers-retours un peu avec Stanley, mais c'est vrai que on se rend compte très vite quand on voit cette méthode de fonctionnement que l'importance qu'avaient les dessinateurs à l'époque. Voilà. En tout cas, moi je vous le conseille vraiment. Ça coûte 13 €, ce qui n'est pas effectivement très cher. Et c'est vraiment une méthode de dessin que je vous conseille de découvrir. Donc ça sort normalement en janvier chez Aquileos. Certains sites l'annoncent déjà pour février. Donc c'est vrai, on ne sait pas exactement. Aquileos en tout cas annonce toujours janvier sur son site. On verra bien. En tout cas, je vous invite vraiment à sauter sur ce livre qui est totalement excellent et qui vraiment montre aussi tout le fonctionnement qu'avait Marvel à cette époque-là. C'est d'une lecture qui est quand même très agréable. Alors c'est pas de la bande dessinée comme Scott McLeod, ça peut paraître moins ludique au départ, et c'est moins universitaire quand même que ne peut l'être McLeod, parce qu'effectivement il n'y a pas une réflexion aussi économique que moi celle que j'ai préférée chez McLeod par exemple dans son deuxième tome.